Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église Grâce et Vérité. Jésus promet à ses disciples « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par le Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Les deuils et les pertes et comment faire face pour continuer à faire confiance à Dieu puis à être rempli de foi puis de zèle. Au niveau des choses qu'on a enseignées, est-ce qu'il y a une vérité que vous pouvez me dire? Une personne, une vérité, de dire face aux pertes, telle chose, moi j'ai retenu en dehors du témoignage, là. Si on fait un petit résumé ensemble, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Ça en passe des choses en une semaine. Ah ben oui, j'étais là la semaine passée, mais... Hey, il faut prendre le temps de les vivre. Excellent! Se permettre de les vivre. Oui! Oui, toi! Exactement. Non, mais c'est très bon de ne pas empêcher les gens de vivre les pertes, de vivre le deuil sous prétexte. C'est quoi la volonté de Dieu à votre égard? Hein? 1 Thessaloniciens 5, 10, 16 à 18, là, c'est que vous soyez toujours joyeux, que vous rendez grâce en toutes choses. Donc, exactement. Puis Jésus s'est permis de vivre la tristesse. Et il y a une expression qu'on avait dit par rapport à ça, c'est « on vise la joie, on veut retrouver la joie ». Et la meilleure façon de retrouver la joie, c'est de se permettre de vivre la tristesse. Quand on se permet de la vivre, ça nous permet de revenir. Et surtout nous autres les hommes, là, mais ça peut être tout le monde, on peut dire « écoute, dans le Seigneur, je veux tout de suite aller à la joie ». Je n'ai pas besoin de tout visiter ça, ces douleurs, c'est pas mon genre. Et ça reste sur le cœur. Hein? Puis les petites pertes, ça devient comme quoi sur le cœur? Hein? Des petits cailloux, on dit c'est tout petit, mais ça pèse. Puis quand ça s'accumule, à un moment donné, le cœur est lourd. Excellent! Y a-t-il d'autres choses que vous vous souvenez qui vous a frappé? Oui? Oui? Exactement. Il y a puis une idole, la plupart du temps dans nos vies, c'est une chose saine, c'est une chose normale, souhaitable, qu'on veuille avoir, qu'on veuille garder. Le problème, c'est quand on ne peut pas vivre sans cette chose-là. Elle devient tellement importante. Donc, quand on perd une chose, si ça nous débalance, ça nous bouleverse au complet, ça démontre juste de l'importance qu'avait cette chose-là. Il y a des choses, c'est normal d'être bouleversé, d'autres moins, parce que, excellent, donc la place des idoles. Oui, est-ce qu'il y avait une autre main? Hein, ça se traîne-tu, ça? Oui, tiens, je vais me mettre, ça roule en plus, je vais me mettre plus au centre devant vous, comme ça. Excellent. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, puis pour se remettre dans le bain, je vous avais fait un très bon résumé. Premièrement, prendre conscience de nos pertes, hein? Les nommer, les décrire. Puis c'est là qu'on a besoin de venir dans la prière, de dire, « Seigneur, tu vois comment ça me fait mal, Seigneur. de ce qui m'arrive. Tu vois comment je suis bouleversé. On dirait que ma vie est finie. On dirait que je ne serais plus capable d'avoir la joie que j'avais avant. Le dire, le nommer. Se permettre d'identifier ce qui a été précieux pour nous puis qu'on a pu. À la mort d'un conjoint, j'ai de la peine, je suis bouleversé. Qu'est-ce qui me met? J'aimais tellement quand j'allais faire des voyages avec mon épouse, juste nos deux, puis je vais pouvoir retourner en voyage, mais elle ne sera plus là. À Noël, il arrive le premier Noël, il y a une tristesse, il y a une lourdeur. Ça nous rappelle tous les merveilleux temps qu'on avait dans le temps des fêtes et que là, on aura pu donc de réaliser c'est quoi qu'on a perdu. Bien des fois, on veut avancer puis mettre ça de côté. Mais on va être comme un aigle qui veut s'envoler. Il va avoir une petite ficelle hein, à notre patte puis on ne pourra pas prendre notre élan. Les idoles que tu as mentionnées du livre de Tim Keller. Une idole, c'est une bonne chose. C'est normal de désirer cette chose-là. Mais ça devient une idole quand ça prend une place trop importante. On ne peut pas vivre sans elle. C'est ce qui donne un sens à notre vie et elle prend même la place que Jésus devrait occuper. Retrouver la joie, on l'a mentionné. Ne pas se permettre de ressentir, de dire nos pertes, nos peines. On fait ça pour que ça aille plus vite, mais ce qu'on fait, c'est qu'on empêche la guérison. On perpétue les effets négatifs dans notre vie et ça nous empêche d'aller de l'avant. Un peu comme la semaine passée, c'est le temps où, pour l'enregistrement, là, c'est l'aspect où je parle de choses très personnelles. J'aimerais mieux que ce ne soit pas enregistré ou pas mis sur le site Internet. Donc, je pense que c'est Juliane qui est pour l'âme de mes deux garçons, se permettre de vivre, pas laisser cette partie de notre cœur-là, de dire, écoute, c'est leur choix, je ne peux rien faire, puis de s'endurcir. Et j'aimerais vous partager, on peut recommencer l'enregistrement, on va parler d'un Dieu de grâce, partager quelques enseignements que m'a permis d'apprendre, d'expérimenter. Ce n'est pas vraiment d'apprendre au niveau théorie, là, c'est de le vivre puis de le ressentir. À ce moment-là, j'enseignais dans un message que j'allais d'église en église que Dieu est un Dieu de grâce. Hein? On est d'accord avec ça? Mais quand on pense que Dieu est un Dieu de grâce, Dieu, c'est un Dieu rédempteur. Ça veut dire que c'est un Dieu qui nous rachète. Quand on fait le lien, un Dieu qui nous rachète, qui nous sauve tout, c'est-tu un Dieu qui permet qu'il n'arrive rien, qu'on n'a pas de problème, il n'a pas besoin de venir nous aider parce qu'on n'est jamais dans le trouble? Non, notre Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu qui permet qu'on tombe pour nous relever. C'est un Dieu qui permet qu'on soit perdu pour nous sauver. Quand on a les paraboles de la drague qui était perdue, de la pièce de monnaie, et il y a trois paraboles, et on sait que la vérité théologique, c'est perdu, retrouvé. Quelle est la réaction? Joie. Perdu, retrouvé, joie. Et ensuite, on a la parabole du fils prodigue. Hein? Mon fils était perdu, il est retrouvé, puis il faut se réjouir. Donc, j'enseignais ça, et là, j'ai vu, Richard, c'est le temps pour toi d'avoir un Dieu de grâce. Ça veut dire qu'il va arriver des choses, des problèmes, des choses qu'on dit, oh, c'est un malheur, des épreuves. Et je peux vous dire que face au fait que Dieu est un Dieu de grâce, si c'était moi, personnellement, qui décidais pour ma vie, Je choisirais qu'il n'arrive rien. Je pense que je serais dû, moi, pour la belle vie, tranquille, droite, la ligne, là, puis qu'il n'arrive pas des choses qui nous bouleversent comme ça. Si c'était juste de moi, je choisirais que mes proches marchent toujours avec le Seigneur, puis que ça aille bien. Je suis un peu comme Marlin dans le film « Trouver Nemo ». Hein? Est-ce qu'il y en a qui ont écouté ce film-là? Est-ce que c'est trop vieux? Hein? Tu sais, ça fait 10-12 ans déjà. Marlin qui a vu tous ses enfants sous forme d'eux se faire manger. Puis là, il en est resté un. Comment il s'appelle? Nemo, hein? Puis Nemo, il a une petite nageoire faible, ça fait que il faut-tu protéger Nemo, hein? Il l'empêchait tout le temps, il voulait le couvrir. Il voulait qu'il n'arrive rien à Nemo, et tout à coup, Nemo disparaît. Et dans ses recherches, il y a la chair Doris qui se joint, la jolie bleue qui se joint à Nemo, à Marlin. Et Marlin dit à propos de son fils, « Je vais tout faire pour qu'il ne lui arrive jamais rien. » Puis Doris dit, « Hey, c'est pas drôle. S'il arrive jamais rien, il va jamais rien lui arriver. » Dieu pense comme ça. Il permet qu'il nous arrive des choses pour qu'il se révèle à nous personnellement comme le Dieu de grâce qui vient nous sauver, qui vient nous délivrer, qui vient nous toucher, nous changer, nous transformer. Il veut qu'on le voie à l'œuvre dans nos vies afin qu'on le connaisse. J'ai connu Jésus. Pas juste au salut pour ma conversion, mais dans ce que je vis au niveau des expériences. Première vérité que j'ai vécue à travers ça, un Dieu de grâce. Ensuite, de vivre sa tristesse. Pas communiquer à nos enfants, à nos proches, notre déception. Un grand-père a donné à l'anniversaire de sa petite-fille, un grand-père chrétien, sa petite-fille qui s'était dernièrement éloignée du Seigneur, 23-24 ans, un bouquet de roses qu'il avait pris la peine d'acheter 2 semaines à l'avance pour le laisser sécher, venir des roses maganées. Détruit, en train de noircir, en lui disant, « Ça, c'est ton cadeau pour ta fête, parce que c'est ça que tu es en train de faire de ta vie. » C'est triste, hein? On ne veut pas faire ça. Mais des fois, on le fait en partie. Quand on a de la peine, ce n'est pas envers notre enfant ou envers nos proches. Ce n'est pas sur eux qu'on doit déverser notre peine. Ça devient lourd à porter. Ce n'est pas à nos enfants à porter ce fardeau-là. L'enfant dit, écoute, mon père est en train de faire une dépression. Je me demande ce qui va y arriver. Je pense que je vais revenir au Seigneur parce que j'ai fait tellement de peine, je me sens coupable. C'est pour ça qu'il faut se permettre de vivre notre peine pour que quand on entre en relation avec nos proches, on est capable d'être là puis de ne pas leur faire subir le fardeau, le poids. Ce n'est pas le temps de faire des reproches. Ce n'est pas le temps de leur dire à quel point ils nous déçoivent. Je ne peux pas croire que tu en es rendu là après tout ce qu'on a fait pour toi, après tout ce qu'on t'a enseigné. Là. C'est ça, à cette heure-là, Jésus, tu, tu n'y crois plus, là. Tu mets tout ça dans poubelle, puis non, c'est pas comme ça. L'Esprit qui est dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit qui est en Jésus, ne va pas dans cette direction-là. Important de vivre notre tristesse, d'avoir des gens avec qui on ouvre notre cœur, on se confie, pour que quand on entre en relation, soit avec nos enfants ou avec ces gens-là, on puisse continuer à communiquer de l'amour. Quelle vérité importante d'avoir envers nos proches, nos enfants, un amour inconditionnel. Est-ce qu'on aime un peu plus nos enfants parce qu'ils marchent avec Dieu, puis ils agissent comme on le souhaite, puis ils ont un bon témoignage, puis les gens nous disent « Wow, c'est beau de voir tes enfants, ils obéissent bien, puis ça fait du bien, c'est encourageant, on le prend. » Mais est-ce qu'on les aime plus pour ça? Est-ce qu'on les aime moins parce qu'ils s'éloignent de Dieu ou qu'ils remettent en question certaines choses qu'on pensait qui étaient acquises? Moi, je pense que ça devrait être le contraire. Quand ils sont dans une période difficile, ça devrait être le temps de les aimer d'autant plus et de les aider, de les aimer vraiment. Pas inconditionnellement, pas parce que c'est facile, pas parce que c'est agréable. La parole dans Romains 5 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Petit verset qu'on connaît par cœur. Mais ce verset-là dit que quand on n'avait rien pour plaire à Dieu, quand on lui déplaisait, quand on était l'ennemi de Dieu, quand Dieu il nous regardait, il disait, rien d'attrayant, rien qui peut stimuler en moi quelques désirs de bénédiction. Quand on était comme ça, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de nous aimer. Dieu a décidé de donner son Fils. Dieu a décidé d'aller nous poursuivre, nous chasser pour nous avoir à lui puis nous gagner par son amour. C'est comme ça qu'il faut qu'on aime nos enfants. Comme Jésus nous aime. Pas sur la base de leur mérite ou de leur bonne conduite. Je me souviens de l'histoire, et il y a un long témoignage qui dure 10-12 minutes, qui est très touchant. Mais en gros, c'est l'histoire d'un pasteur aux États-Unis que la fille rejette tout, la foi, qui dit « vous êtes tous des hypocrites », puis qui s'en va, puis qui est perdu dans une grande ville, qui tombe dans la drogue, puis le père pasteur est dans une tristesse, un désarroi, pas de nouvelles pendant des mois de sa fille. Aussitôt qu'il y a un peu de temps, il se tient dans les centres-villes, des lieux mal famés pour essayer de trouver sa fille. Il pose des questions à un, à l'autre. Un dit qu'il l'aurait vue, puis il essaie de trouver sa trace. Et une fois, finalement, il rentre dans une piquerie, une place où il y a plein de gens qui sont drogués. Monte au deuxième étage, fait noir, c'est presque la nuit. Il essaie de voir et tout à coup, il voit sa fille qui dort, comme tout le monde était en train de dormir. Et là, il se met à genoux devant sa fille. Tout ce qu'il fait, il prend la couverture, il la brille comme il faut et il décide de s'en aller en voulant pas la brusquer, de dire, écoute, tu t'en viens chez nous, je t'ai trouvé, c'est assez. Deux journées plus tard, la jeune fille était de retour. Quand son père est venu, elle ne dormait pas. Elle l'a vu tout, elle a gardé les yeux fermés. Et ce qu'elle a dit, c'est « Je veux du Dieu qui a un amour comme ça. » Et c'est de cette manière qu'on doit aimer nos enfants, inconditionnellement, en étant là pour eux. Pas en train de penser à nous, de voir qu'on a tout donné, puis qu'ils sont ingrats, puis ça valait-tu la peine, puis... Non. Continuer à aimer. Une autre vérité, quand des situations comme celle-là et toutes celles qui s'apparentent, des enfants qui s'éloignent ou la perte d'un conjoint, un divorce entre deux chrétiens, c'est la compassion et en même temps la perte de l'orgueil. Je croyais que ça m'arriverait jamais que mes enfants s'éloignent parce que je faisais ce qui est bien, puis que ça allait bien. Je faisais ce qu'il faut, ce que Jésus me demandait dans sa parole. Et quand mes enfants grandissaient, tout allait bien, et quand je voyais d'autres enfants qui s'éloignaient et que les parents disaient, oh, nous autres, on a deux sur quatre qui ne suivent plus, puis extérieurement, j'étais rempli de compassion, mais en dedans de moi, il y avait, sans que je le sache, un peu inconsciemment, mais tu sais que c'est là quand même, un peu de jugement. Ils ont dû faire quelque chose pour que ça leur arrive. Moi ça ne m'arrive pas. Au fond, je ne voulais pas que ça m'arrive. C'est un peu comme quand j'avais 10, 11, 12 ans, je voyais des ados qui avaient de l'acné. Là. Il y en a que, tu vois, là, ils ont le visage plein ou quand ils vont à la plage, le dos. Là. Puis moi, je voyais ça. Puis là, je disais, « Hey! » Je ne sais pas ce qu'ils font eux autres pour avoir de l'acné. En tout cas, moi j'en veux pas, puis je voulais pas que ça m'arrive. Et je peux vous dire que j'en ai eu de l'acné avec des gros boutons dans le visage, dans le dos. Puis là, je comprenais que quand ça arrive, on n'a rien à faire pour ça. Ça arrive tout seul. Il y a une perte de jugement, une perte d'orgueil. Face aux gens. On devient compatissant. On est capable de transférer. Il y a un frère, une sœur qui vit un divorce, pourtant c'est un couple chrétien. Tu es capable de dire, écoute, moi ça ne m'est pas arrivé, mais ça pourrait m'arriver. Gloire à Dieu si Dieu protège mon couple, mais il n'y a de ma part aucun jugement où je regarde pas de haut en disant, écoute, nous, on a fait ce qu'il fallait pour. Et quand le jugement, l'orgueil tombe, là, on peut consoler. Hein? On a vu la semaine dernière que notre Dieu est le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Pourquoi? Pour qu'on puisse consoler les autres dans leur peine, dans leur douleur. On a besoin d'apprendre à pleurer sur nos pertes. Et quand on a la bonne compréhension, bien, on va pouvoir devenir compatissant envers les gens comme Jésus l'était. Quand il n'est rien arrivé dans notre vie, on peut avoir une idée là, que c'est normal que tout aille bien tout le temps. On suit le Seigneur, on obéit à sa parole, on fait notre culte à tous les matins, on va à l'église, on donne notre offrande, on sert, puis à partir de là, il n'y arrivera rien. On est sous la grâce de Dieu. Dieu nous bénit. Et tout à coup, il y a des saisons de la vie où des choses arrivent. On a besoin d'être prêt. On a besoin de savoir que Dieu nous aime pas moins dans ce temps-là. Des fois, on se demande qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies parce qu'il permet des choses. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu va être là au milieu de l'épreuve, dans l'épreuve. Autre chose, l'espoir et la confiance en Jésus. Ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu toutes les hauts puis les bas, puis les hauts puis les bas que mon épouse et moi, on a vécu ensemble, ces temps difficiles qui revenaient, puis que là, mon cœur, il était bouleversé. Oh non, pas encore. Hein, puis quand tu es dedans, là, puis que des périodes de dépression durent 4 mois, là, quand ça fait un mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, tu ne sais pas que ça arrête à 4 mois. Tu es comme en train de survivre, là, tu retiens ton souffle, puis t'espères qu'à un moment donné, ça va arrêter. Dans ces situations-là, il est salutaire de prendre un pas en arrière. Pour voir l'œuvre de Dieu, de dire, Seigneur, tu n'as pas terminé dans la vie de mes enfants. Tu n'es pas en train des abandonnés. Puis eux qui ont été dans un foyer chrétien toute leur vie, qui ont toujours cru puis accepté ce qu'on leur disait, d'arriver au début de la vingtaine, puis qui prennent un pas ou deux en arrière, puis qui disent, écoute, qu'est-ce que je crois, moi? C'est salutaire. C'est insécurisant. Si j'avais à choisir, non, fais pas ça, continue, tu vas voir, c'est la vérité, pose-toi pas de questions. C'est insécurisant, mais ça conduit à la vraie foi. Et ça va être l'action de Jésus dans la vie de nos enfants. Et moi, je décide de faire confiance à Jésus. Il ne nous abandonne pas. Il n'a pas abandonné Michael, il n'a pas abandonné Olivier. Il a commencé une œuvre dans leur vie, il veut la poursuivre, et Dieu veut se révéler à eux d'une façon personnelle et marquante. Moi, j'ai accepté le Seigneur Jésus à l'âge de 22 ans. Et ma mère disait, « T'es fou, où est-ce que tu vas? T'es en train de te perdre, puis vis donc ta vie. Puis... » Je n'avais pas un parent qui me disait d'adhérer à une foi, c'était le contraire. J'allais par moi-même, j'étais convaincu. Et nos enfants, peu importe l'âge, ça peut être à 13 ans, 18, à 25, ils ont besoin d'un temps où ils sortirent, puis ils se l'approprient, puis ils disent, maintenant, c'est mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de mes parents. J'aimerais vous donner l'occasion peut-être de poser des questions, d'avoir des commentaires, des partages face aux choses. Peut-être prendre un 5-10 minutes, puis après ça, j'aurai une dernière petite étape à faire avec vous ensemble. Ça peut être un lien que vous faites avec une situation que vous vivez. Peut-être que vous avez des jeunes enfants et vous dites, Richard, là, tu viens de péter notre balloon, là. On pensait que tout allait être un beau fil direct tout le temps, qu'il n'allait jamais avoir de situation difficile. Oui? Hmm.
cette portion de la parole de Dieu vous a fait du bien, partagez-la en la distribuant gratuitement sur les médias sociaux et en y laissant votre appréciation. Vous en voulez plus? Pas de problème. L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web avec des centaines de messages et de ressources en audio MP3 et vidéo. Vous trouverez tout cela à l'adresse graceetverite.org. Merci de nous honorer en visitant notre Église ou en laissant un commentaire sur notre site internet graceetverite.org.